Alors, nous avons entamé une série sur le sermon sur la montagne et nous avions commencé la semaine passée les béatitudes. Nous n'avions fait qu'une partie des béatitudes. Alors, on va les reprendre aujourd'hui et avant, on va refaire une petite introduction. Donc, la semaine passée, nous avons parlé, regardé le début du sermon sur la montagne et ce qu'on appelle les béatitudes. Donc on a commencé à se poser un certain nombre de questions que je vais rappeler. Qui heureux? Alors heureux, ça commence par heureux, les béatitudes, et qui est heureux? Voilà la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est que ce bonheur? De quel bonheur s'agit-il? Alors, il y a trois explications qu'on avait vues rapidement. J'y reviens aujourd'hui. Il y a trois explications qui se complètent. Donc la première, c'est que Jésus emploie souvent un langage concret pour parler de réalité spirituelle. On avait insisté là-dessus. Alors il y a « heureux les pauvres » dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Matthieu, il explique le sens spirituel de ça, « heureux les pauvres en esprit », qu'on traduit souvent, par exemple par « heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ». Donc ça, c'est la première explication. Il emploie un langage concret pour parler de réalité spirituelle. La deuxième explication va plus loin. C'est qu'il parle du bonheur à être en phase avec notre Père céleste et non pas des joies immédiates de la vie. C'est que l'on peut être heureux, on peut être heureux quand toutes les circonstances s'y opposent. Il y a eu plusieurs prières qui allaient, la première partie aussi, dans ce sens, ce matin. Et l'épître de Jacques nous invite à reconnaître cela. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Jacques 1. Alors, il y a une satisfaction profonde, non pas à vivre des difficultés, non, on n'est pas maso, mais il y a une satisfaction profonde à faire la volonté de Dieu. À savoir qu'on est dans le vrai, même si on fait partie de ceux qui pleurent. Et c'est notamment le cas de ceux qui sont opprimés pour la justice, de ceux qui sont persécutés, de ceux qui sont calomniés. On est béni, et on peut être appelé béni de Dieu. On est béni parce qu'on marche avec Dieu, alors qu'on vit en même temps une insatisfaction, une frustration, une tristesse, une épreuve. Donc ça, c'est le deuxième sens de ce bonheur dont parle Jésus. Et puis le troisième, ça nous ramène au troisième, la troisième explication de ces paroles si étranges, c'est la perspective d'un jour où les personnes qui vivent les béatitudes seront pleinement comblées. Et ça, c'est tout l'enseignement de la Bible. Le royaume de Dieu leur appartient, mais ils hériteront un jour de la terre promise. Dieu les consolera, leur soif de justice sera étanchée, Dieu sera bon pour eux. Ils verront Dieu, Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Donc, il y a l'idée que quand on regarde plus loin, on voit le présent autrement. Alors, nous allons relire donc ces béatitudes et c'est surtout donc la deuxième partie que nous commentons. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se savent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, on vous persécutera, on répandra toutes sortes de bruit sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Seigneur, éclaire encore pour nous ta sainte parole. Amen. Alors, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui témoignent de la bonté, hein, dit notre version. Donc c'est bon de rappeler ça parce que le mot miséricorde, il n'est pas très bien compris aujourd'hui. Et le mot miséricordieux, hein, qu'on trouve dans les traductions les plus anciennes, n'a rien à voir avec la misère. Hein, il y a des faux amis. Hein, la langue évolue et des fois, on évolue moins vite. Ou trop vite. Donc ça n'a rien à voir avec la misère. Hein. Il désigne ce mot ceux qui ont pitié des autres. Ceux qui se montrent bons envers les autres. Et donc, c'est une valeur, la bonté, c'est une valeur typiquement chrétienne. Donc, heureux ceux qui témoignent de la bonté. Ils sont en fait du bon côté de la barrière, malgré les apparences parfois. Ils sont dans le vrai. Alors, pourquoi ils sont dans le vrai? Mais pour deux raisons. Ils sont dans le vrai, d'une part, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin qu'on soit bon envers eux. Ils ne sont pas toujours forts, ils ne sont pas toujours beaux, ils ne sont pas toujours puissants, ils ne sont pas toujours parfaits. Ils ont besoin qu'on soit aussi indulgent avec eux. Ils ont besoin qu'on les aime au point de leur pardonner leurs offenses, comme ils prennent l'habitude de pardonner aussi à ceux qui les ont offensés. Et puis ils sont dans le vrai, d'autre part, parce qu'ils savent que la loi du plus fort n'est pas l'ultime réalité de l'existence. Il y a Dieu, l'ultime réalité. Le triomphe des sans scrupules, c'est l'apparence des choses. Mais il y a Dieu, Dieu qui a inscrit autre chose dans le cœur humain et qui nous le rappelle de temps en temps. Dieu, il y a Dieu qui amènera toute chose en jugement. Il y a Dieu qui a montré à la croix à quel point il était fort, mais d'une façon tout autre, tout autrement il l'a fait. Et puis donc il y a une logique, il y a une logique dans la bonté. Si on la refuse, c'est qu'on ne veut pas de la bonté de Dieu envers nous. Alors il est vrai que dans l'absolu, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais déjà sur terre, nous sommes tous appelés à lui ressembler pour une part. Et à lui ressembler de plus en plus. Nous sommes tous appelés à exercer la grâce envers nos semblables. Nous sommes tous appelés à leur pardonner comme Dieu nous a déjà pardonné. Alors c'est partout ça, c'est partout dans l'évangile, c'est partout dans le sermon sur la montagne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, notre Père. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Voilà, ça c'est le serment sur la montagne, on y reviendra. C'est tellement fort. Mais il faut quand même apporter deux précisions. La première, s'agissant du pardon, de la bonté qu'on manifeste ainsi envers les autres. Eh bien, nous n'avons pas à laisser courir, bien sûr, les harceleurs. Nous n'avons pas à laisser courir les chauffards, les criminels. Si on s'abstient de porter plainte, par exemple, en justice, on ne rend pas service au coupable. Le coupable a besoin d'être confronté au mal qu'il a fait. C'est pareil en éducation. Et surtout, nous ne faisons rien pour protéger les autres victimes potentielles dans ce cas-là. Donc, bien sûr, nous ne nous vengeons pas nous-mêmes, mais nous nous en remettons à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est celle que Dieu a voulu mettre en place à travers les magistrats, les juges, selon Romains chapitre 13. Nous prions pour ceux qui font le mal, et nous cherchons leur bien. Et là, nous voyons bien la façon de chercher leur bien. Alors, une deuxième précision concerne ce fameux commandement aussi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ça a trait, bien sûr, à la bonté. Comment exercer la bonté envers notre prochain? Déjà dans l'Ancien Testament, la définition du prochain incluait l'immigré, la veuve, l'orphelin. Et dans le sermon sur la montagne, il inclut même vos ennemis. Jésus va encore plus loin. Ceux qui vous persécutent. Alors, une approche de juriste voudrait délimiter les champs d'application d'un commandement si exigeant, si vaste. Mais il s'agit de l'attitude de notre cœur. Et là, nous ne pouvons pas cultiver la bonté ou l'amour du prochain en sélectionnant les candidats à l'avance. Bien sûr, il y a des considérations pratiques. Bien sûr, il y a des priorités. Mais Jésus ne nous demande pas de les mettre en avant pour annuler une loi généreuse par des décrets d'application mesquins. C'est ce que faisaient les pharisiens. Jésus nous demande d'être généreux envers tous, comme notre Père Céleste l'est. Si nous voulons monter sur la montagne pour être à l'écoute de Jésus, on l'a dit plusieurs fois dans notre culte déjà, nous n'avons pas le choix. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Alors, il y a l'autre béatitude qui suit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, les gens religieux du temps de Jésus croyaient savoir ce que c'était la pureté et se préoccupaient beaucoup de la pureté. Mais ils la comprenaient comme une nécessité pour le corps, pour l'extérieur. Il y avait des règles très strictes, comme le lavement des mains, comme le lavement de la vaisselle. On pouvait se rendre impur simplement en entrant chez un non-juif ou dans une maison où il y avait eu juste avant un décès. Il était dangereux de fréquenter des gens réputés impurs, etc., etc. Alors, il faut dire que cette préoccupation, bien sûr, remontait déjà aux lois de l'Ancien Testament. Mais l'importance que l'on attachait à ces lois avait fini par faire oublier les éléments essentiels de la loi, comme l'amour des personnes. Voilà ce que Jésus critiquait chez les pharisiens. Et donc, d'où de nombreuses controverses donc, entre Jésus et les défenseurs de la tradition religieuse. On ne se rend pas impur, a dit le Christ, en mangeant quelque chose, ou en oubliant de se laver les mains avant de manger. On se rend impur parce que par tout ce que l'on dit, par tout ce que l'on fait, par ce qui provient du cœur et qui se manifeste sur la place publique. Alors on saisit ainsi toute la portée de ce que Jésus dit ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont purs de cœur. En cas d'impureté rituelle, on peut se laver tout le corps. Voilà, et on ne s'en privait pas. Mais qui vous lavera le cœur? Être du bon côté, c'est avoir le cœur pur. Mais pur, alors, pur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans un premier temps, pensons à tout ce qui peut nous polluer l'esprit. Alors, il y a les rancœurs, bien sûr. Il y a certains souvenirs qui nous reviennent comme ça, comme un boomerang. Il y a les regrets, qui aussi pointent le bout de leur nez quand on ne s'y attend pas. Il y a les ambitions mal placées. Il y a des fantasmes, toutes sortes, des fantasmes sexuels. Pour que l'eau du robinet cesse d'être pure, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un peu de nitrate, un peu de plomb, un peu d'argile. Il ne faut pas beaucoup de saleté pour atteindre non plus tout le cœur. Mais dans un second temps, allons au-delà des pollutions faciles à identifier. Le cœur pur, c'est le cœur sans partage. C'est le cœur intègre. C'est le cœur cohérent. Le cœur, on va dire, d'un seul tenant, d'un seul bloc. Alors posons-nous la question du cœur partagé. Alors c'est une question difficile, parce que dans cette vie, nous nous occupons de mille choses à la fois. Nous passons du travail à la famille, de la famille à l'entretien de la maison, et de là au culte, au loisir, à la vie dans la cité, à la prière personnelle, à la panne de voiture, aux vacances, etc., etc. Et notre emploi du temps est morcelé, morcelé de plus en plus, je crois, morcelé encore à chaque niveau. En famille, on s'occupe du conjoint, si nous sommes mariés, des enfants, si nous en avons. On s'occupe des personnes âgées, des parents âgés, s'il nous en reste. On s'occupe des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, sans parler. Voilà, des pièces rapportées, des cousins à la mode de Bretagne. Nous sommes forcément partagés. Alors, qu'est-ce qui donne de la cohérence à l'ensemble ? Qu'est-ce qu'il y a au cœur du cœur, comme on dit, au cœur du cœur de la centrale, Eh bien, pour un chrétien, il ne peut y avoir qu'une seule réponse, c'est le désir de plaire à Dieu. Alors, vu la multiplicité de nos occupations, la clé de la sagesse, c'est ce qu'on appelait autrefois la crainte de Dieu. C'est-à-dire le respect de Dieu, la recherche permanente de sa justice, de son royaume. Et le cœur partagé, ce serait le cœur où Dieu est une des préoccupations, mais pas la première. Le cœur partagé, ce ne serait pas en Dieu, alors qu'on trouve donc sa cohérence, mais ailleurs. Voilà le cœur partagé. Alors ceux qui ont le cœur pur, il y a là aussi une bénédiction, il y a une promesse, ils verront Dieu. Ouh là là ! C'est une chose étonnante quand on réfléchit. Comment le grain de poussière que je suis, peut-il voir la lumière des lumières, plus brillante qu'un milliard d'étoiles, sans être volatilisé en un instant ? Comment un être humain pourrait-il voir Dieu et vivre, nous dit la Bible ? Mais la Bible dit aussi que c'est impossible, mais la Bible dit aussi que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Autrement dit, quand le Dieu insondable tourne vers nous sa face, c'est son Fils, c'est sa parole, c'est son image que nous voyons. Et ce rayonnement de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père, a-t-il dit. Donc c'est vrai du vivant de Christ sur la terre. C'était déjà vrai. Ce sera vrai aussi pour l'éternité. C'est ainsi que l'apôtre Jean écrit dans sa première épître. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui et nous le verrons, car nous le verrons tel qu'il est. Donc dans l'absolu, ce n'est que là, au retour du Seigneur, que nous aurons le cœur vraiment pur. Dans la pratique, nous tendons vers cet objectif dès maintenant, en nous confiant à la grâce de Dieu. Et puis, il y a une autre béatitude qui suit, tout aussi profonde et complexe aussi, ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, qui répandent autour d'eux la paix. Ça dépend des traductions, c'est cette idée-là. Alors, le monde dit autre chose. Il dit « heureux ceux qui cherchent la guerre ». Heureux les grands conquérants. Heureux ceux qui construisent de grands empires ou qui essayent d'ajouter à leur grand empire encore un petit morceau pour améliorer leur opinion publique. Eux et leur pouvoir. Heureux ceux qui se couvrent de gloire en faisant mourir des milliers de gens, forcément. Il y a toujours ça. Alors il faut bien sûr dire que la guerre est une réalité incontournable de notre vie, de la vie humaine. C'est l'histoire des hommes. Il n'y a qu'à regarder un livre d'histoire, c'est une longue épopée de toutes les guerres. C'est souvent, on ne raconte que ça presque des fois. Alexandre le Grand, Jules César, la guerre de 100 ans, Napoléon, terrible Napoléon, les guerres coloniales et tout ce qu'on veut. Jusqu'aujourd'hui, avec tous les bruits de guerre qu'on entend dès qu'on ouvre un média. Faut-il, alors dans ce contexte, faut-il promouvoir la paix à tout prix ? Dans les familles, dans les entreprises, dans notre pays, entre les pays. C'est là qu'il faut rapprocher le sermon sur la montagne d'une autre parole de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Il y Bien sûr, en français, ça sonne bien. Hein, Luc 12, 51-53. Mais il y a quand même une vérité là. Hein. C'est qu'il y a des combats. Il existe des combats pour la vérité, pour la justice, pour la liberté, qui sont tout à fait justifiés. On les livre, mais voilà, la question c'est, on les livre pour quelles raisons ? On les livre avec quelles armes aussi ? Hein ? Tout est là. Mais la guerre, donc, est une réalité humaine incontournable. Mais Jésus, de nous dire que la vérité est ailleurs. Heureux ceux qui procurent la paix, Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Donc, c'est Dieu hein, qui est Adonai Shalom. Il y a un cantique, on pourrait chanter, hein, qui parle de Dieu qui remet, qui reprend les noms de Dieu. Hein, tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Hein. Adonai Shalom, Seigneur de la paix. Donc, Dieu est Seigneur de la paix. La guerre n'a pas et n'aura pas le dernier mot de l'histoire. En attendant ce dernier mot, que faisons-nous pour promouvoir la paix ? Pour être artisan de paix, comme dit l'ancienne version. Eh bien, on peut le faire. Que faisons-nous dans les attitudes que nous adoptons, par exemple, envers les étrangers ? Que faisons-nous dans notre vie de prière pour promouvoir la paix ? Que faisons-nous dans notre engagement dans telle ou telle association ? Il y a sûrement quelque chose à faire. Et dans le climat de paix que nous favorisons, dans nos relations au quotidien, nous pouvons nous montrer désireux de vivre en fils de Dieu, en enfant de la paix. Cela, on le fait, hein, et bien dans, comme on l'a dit, dans le climat de paix qu'on favorise, dans nos relations au quotidien. Alors, ceux qui sont opprimés pour la justice, c'est peut-être la béatitude la plus connue, hein, et c'est la quatrième de ce matin, ceux qui sont opprimés, persécutés, hein, opprimés pour la justice. Alors, de nouveau, c'est le monde à l'envers, on va dire, hein. Le bonheur devrait logiquement appartenir à ceux qui sont forts, hein, sans s'occuper des autres. Hein, c'est ce qu'on entend. Hein. Le bonheur devrait appartenir à ceux qui s'imposent par la force, hein, à ceux qui sont à l'abri de tout tracas. Hein. Voilà, eux, ils sont heureux. Et quand je serai dans cette situation, alors là, je serai heureux, mais pas avant. Hein. Voilà, c'est ce qu'on... Il y a une petite idée comme ceux qui voyagent. Mais non, dit Jésus. Jésus prononce une bénédiction pour ceux qui sont opprimés. N'oublions pas que c'est Jésus qui le dit. Alors, précisément, pour ceux qui sont opprimés pour la justice, on aime bien ajouter ça, insister là-dessus, et c'est bon de le dire, l'oppression en soi n'est pas une bénédiction. On peut être opprimé pour de mauvais motifs, Et puis, ce n'est pas une bénédiction en soi. Il faudrait être fou pour le croire. Hein. Mais quand la cause de l'oppression est la justice de Dieu, alors oui, là c'est une bénédiction. L'oppression, dans ce cas, consacre ceux qui ont choisi la bonne part. Ceux qui sont du bon côté de la barrière. Ceux qui ont misé sur l'éternité. Ceux qui ont un héritage dans les cieux, ceux qui sont fils et filles des prophètes d'autrefois, dit Jésus. Alors, évidemment, il faut un caractère bien trempé pour affirmer être heureux quand on est opprimé par la justice. Pensez à toutes les victimes de la police secrète de Staline quand on frappait à la porte. Il y en a qui disaient, qui se pensaient heureux parce qu'ils étaient persécutés. Pour la justice. Pensez à toutes les victimes des régimes totalitaires comme l'Arabie Saoudite et compagnie. Hein. Ou si on est chrétien, eh bien, votre frère aîné vient vous trucider avec un couteau à la main. Hein. Et puis on pense à tous ceux qui sont en prison pour leur foi, dans une cellule où on entend de l'autre côté les hurlements d'un homme qu'on torture. Il faut un caractère bien trempé pour affirmer cela dans ces circonstances-là. Mais on a tous entendu ou lu des témoignages véridiques de survivants qui ont osé le croire et qui l'ont vécu. Alors, on n'est pas passé par là, la plupart d'entre nous, et on n'a pas le droit de le dire si on n'est pas passé par là. Mais Jésus le peut. Il va passer par là. Les martyrs des premiers siècles les martyrs chrétiens des premiers siècles ont le droit de le dire aussi. Alors c'est un signe extraordinaire du royaume, hein, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Hein. Vers l'an 200, un auteur latin, Tertullien, a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et ça a été vrai dans les premiers siècles, hein, contre toute logique. Alors si on conclut, on peut dire qu'on peut avoir l'impression que cette dernière béatitude est un peu déplacée. Mais non, cette dernière béatitude, voilà, résume finalement toutes les béatitudes. C'est le signe plus fort du reste, hein, c'est la conclusion du reste. Et en terminant, Jésus conclut en insistant plus que jamais sur le renversement des valeurs qui caractérisent toutes les autres béatitudes. Hein. Le bonheur, finalement, n'est pas là où on le pense. Voilà ce qu'il faut retenir. Il n'est pas là où on le pense dans notre société. Il est dans les valeurs éternelles du royaume de Dieu. Et donc, quel défi pour nous aujourd'hui de les vivre, ces valeurs, de plus en plus, dans notre monde tel qu'il est, de vivre de plus en plus la bonté, de vivre de plus en plus la pureté de cœur, un beau défi, de vivre de plus en plus la paix, de vivre de plus en plus la résistance à l'oppression, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'oppression. Alors que Dieu nous donne de les réaliser, de réaliser cela, et de réaliser ces défis, de plus en plus, de mieux en mieux. Amen.